pouvons commencer l'enregistrement, s'il vous plaît. Bien, on vient de me confirmer que l'enregistrement vient de commencer. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à ce premier webinaire pour la mise à jour sur les recommandations de l'axe de travail numéro 1 pour la proposition préliminaire du groupe CCWG Responsabilité. Je suis le co-président de la GNSO auprès du CCWG. Les autres deux présidents sont Jovai Dabnik et Léon Sanchez, qui se trouve au Mexique et Bonjour. Qui appartient à ALAC, qui a été nommé par ALAC. C'est le coprésident aussi. Donc, nous avons aussi des rapporteurs qui travaillent avec nous, qui ont dirigé des sous-groupes, qui ont travaillé sur les différents aspects de la recommandation et la façon dont nous allons organiser cette webinaire est la suivante. Nous allons nous focaliser principalement sur la différence entre le deuxième et le troisième rapport que nous avons publié. Vous vous souvenez que le travail du CCWG a commencé il y a un an environ et nous avons déjà présenté deux rapports. Nous avons eu deux périodes de commentaires publics suite à ces rapports et après donc ces deux processus, nous avons conservé pratiquement tous les aspects du premier et du deuxième rapport et que la communauté a soutenu dans son ensemble. Donc entre le premier et le deuxième rapport, nous avons mis à jour des domaines dans lesquels il y avait eu de nouvelles idées et pour lesquels la communauté avait présenté ses préoccupations. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés et concernant la genèse de nos recommandations, je vous propose de vous rapporter à ces rapports et aux appendices de ces rapports parce qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous être utiles pour comprendre ce que nous avons fait au cours de cette année. Donc, cette webinaire va être focalisé sur ces dernières nouvelles. Donc, si vous avez suivi ce processus, vous allez comprendre qu'on va aborder certaines choses que vous savez déjà et on va surtout vous parler des modifications que nous avons faites aux recommandations depuis Dublin. Ce webinaire est à votre disposition en différentes langues. Donc nous avons l'anglais, l'espagnol, le français, le chinois, l'arabe, le russe et le portugais. Vous savez, je sais que c'est un peu difficile de suivre l'interprétation en ligne, mais vous devez savoir que nous faisons tout notre possible pour ne pas parler trop vite. Si c'est le cas, dites-le nous. Si nous parlons trop vite, envoyez un petit mot dans la section du chat, du bavardage de notre salle de façon à ce que nous ralentissions. Nous allons regarder les diapositives de façon à ce que vous ayez une idée de ce que nous avons fait. Ensuite, nous passerons aux questions. D'après ce que j'ai compris, la salle de participation à distance a un système d'audio auquel vous pouvez vous connecter pour poser des questions. Vous pouvez aussi poser des questions dans le chat. Et en général, on a constaté que les participants d'un webinaire veulent faire des commentaires. Donc, nous allons vous demander de rentrer dans la queue que nous allons faire. Nous prendrons note de votre question que vous écrirez dans la partie du chat et nous y répondrons l'une après l'autre si vous posez vos questions par écrit. Hein. Nous allons conduire ce webinaire. Nous allons partager la responsabilité des différentes parties de notre rapport entre plusieurs orateurs. Donc, vous allez avoir différents experts qui vont prendre la parole. Hein. Bien, maintenant, je vais directement, sans perdre plus de temps, je vais inviter mon coprésident, Léon Sanchez, à prendre la parole. Il vous montrera et commentera les premières diapositives. Léon Sanchez prend la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir de prendre la parole. Est-ce que tout le monde m'entend correctement, d'abord?
Oui.
Est-ce que mon micro fonctionne bien? Oui, on vous entend bien. Parfait, merci beaucoup. Bien. Donc, nous allons présenter ce rapport concernant les mises à jour faites sur notre deuxième rapport préliminaire. Mais avant tout, je voudrais vous montrer un peu une vision d'ensemble et de ce processus. Pour ceux qui ne découvrent ce processus que maintenant, c'est un processus qui a commencé déjà il y a quelque temps. Donc, je voudrais que vous ayez toutes les informations pour bien comprendre ce dont nous vous parlons. Hein. Bien, donc, au cours de l'année dernière, nous avons travaillé, ce groupe de travail et la communauté d'ICANN et ses membres ont mis en place une série d'améliorations proposées à la responsabilité de l'ICANN et qui a été présentée à la communauté d'Internet. Cette proposition préliminaire du premier axe de travail et de ses recommandations est un appel pour les organisations membres à considérer cette proposition, à exprimer leur soutien ou au contraire leur préoccupation concernant notre proposition. Et bien sûr, ensuite il y aura une consultation publique auprès de la communauté pour qu'elle exprime son soutien, ses préoccupations concernant l'acte de travail, le premier acte de travail. Donc vous voyez ici ce diagramme de ce processus dans son ensemble depuis l'annonce du NTIA et de ses critères en mars 2014. Ensuite, vous voyez ici ICANN qui a coordonné ses efforts avec les différents processus, le processus donc de l'ICG et le processus de responsabilité. Nous allons nous focaliser sur la partie de responsabilité du CCWG, bien sûr. Et nous avons ici donc une proposition qui a été approuvée qui doit être approuvée par les organisations et ensuite qui doit être approuvée par le conseil de l'ICANN. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Bien. Donc, le contexte dans lequel nous avons travaillé au cours du processus de transition des fonctions IANA, la communauté s'est concentrée sur ce que le gouvernement américain donc avait fait jusque-là et ce qu'il est sur cette confiance qu'il avait exprimée en ICANN, en lui donc demandant d'assumer ses fonctions. On a pensé qu'il fallait améliorer certaines parties concernant la responsabilité de l'ICANN. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, suite à ces constatations, un groupe de travail intercommunautaire a été réuni qui a commencé à travailler sur la responsabilité de l'ICANN. Il a été appelé CCWG Responsabilité. Il devait donc présenter une proposition pour améliorer donc ICANN et la responsabilité de l'ICANN envers toutes ces parties prenantes. Donc le CCWG Responsabilité a commencé à travailler sur deux axes. Le premier, qui se focalisait sur les mécanismes pour améliorer la responsabilité de l'ICANN, qui devait être mis en place dans le délai de la transition des fonctions IANA, ce qui voulait dire avant que cette transition soit vraiment réalisée. Et l'axe 2 se focalisait sur les questions de responsabilité pour lesquelles un calendrier visant à développer des solutions et à une mise en œuvre ensuite serait prévu au-delà de la transition des fonctions IANA, c'est-à-dire après la date de transition. Donc, nous avons donc ici deux étapes Hein? La première aborde un problème, hein, pour que cela soit réglé avant la transition, et ensuite, une fois que ces critères auront été donc satisfaits, on passera à l'étape 2, à l'axe 2. Voilà, donc ce sont les deux axes de travail sur lesquels nous avons travaillé. Et je pense que... Ah, on me dit qu'il y a un problème de son. Ok, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Bon, donc, on a essayé d'obtenir une approbation par les organisations membres concernant le résultat de l'axe de travail numéro 1. Nous avons déjà publié le résultat de ce travail qui a été présenté aux commentaires publics. S'il vous plaît, deuxième ou diapo suivante, nous avons publié les propositions préliminaires sur les recommandations de l'axe numéro 1 et vous pouvez avoir une vision donc d'ensemble de ce travail. C'est une proposition de 57 pages en résumé. Nous avons aussi des annexes, 15 annexes détaillées des recommandations proposées qui vous donneront une meilleure compréhension de l'analyse en profondeur. Et puis nous avons 10 appendices qui ont été rajoutés. Donc, et pour que tout le monde puisse vraiment soutenir ou ne pas ou exprimer ses préoccupations concernant cette proposition, hein, nous avons fait traduire ce matériel ou ce matériel va être traduit dans différentes langues. Les changements entre la deuxième et la première et la deuxième proposition figurent ici. Donc vous pouvez voir les changements, vous pouvez suivre le processus dans son ensemble depuis le début. Et nous avons aussi la possibilité de vous présenter l'ensemble en arabe, en espagnol, en français, en russe, en chinois et en portugais, qui vont être traduits et que vous recevrez dans quelques temps. Sur cette diapo, vous voyez deux liens qui vous renvoient au site sur lequel vous trouverez ces traductions. Il y a aussi un sondage de commentaires publics qui va terminer le 21 décembre. Et ces diapositives seront aussi à votre disposition une fois que nous aurons fini ce webinaire, de façon à ce que vous puissiez aussi les utiliser. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons identifié différentes parties qui seraient les bases de cette proposition. La première partie, ces quatre parties principales vont former les différents aspects qui demandent et pour lesquels il faut améliorer la responsabilité de la CAN. Donc le premier, ce sont les principes qui sont formés des statuts. Hein. Les statuts formes sont la base de ces principes et ces statuts donc vont être modifiés et il va y avoir des statuts fondamentaux. Et nous allons ajouter de nouveaux mécanismes. Nous allons ajouter l'affirmation des engagements et la révision de l'affirmation des engagements. Et nous allons rajouter aussi certaines clauses dans nos statuts sur les droits de l'homme. Et on en parlera plus tard, hein, donc dans le détail. La deuxième partie fondamentale, c'est les mécanismes de révision et d'appel indépendants. Nous avons donc une partie et un groupe de travail qui s'est chargé donc d'améliorer ce processus à travers donc l'amélioration des IRP et on a fait une proposition.
Ensuite, le troisième est le conseil de direction. Si vous le conseillez, si vous le voyez, et c'était le, si vous considérez qu'il s'agit du pouvoir exécutif, et si on compare cela au reste de la structure, vous allez voir nous avons ici une habilitation de la communauté et qui a augmenté, et nous avons donc une division en 5 pouvoirs, et cette quatrième partie importante forme la communauté d'ICANN habilitée, donc, et qui est destinée à améliorer la responsabilité de l'ICANN. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, un des aspects clés du travail du CCWG et de la proposition que nous sommes en train de faire approuver par les organisations membres, et est basée sur ces 7 nouveaux pouvoirs de la communauté. Le CCWG a proposé une série de pouvoirs de la communauté. Il y en a 7 qui sont conçus pour donner davantage de pouvoir à la communauté et de façon à ce que la communauté augmente la responsabilité de l'ICANN face aux principes de l'organisation qui sont la mission, l'engagement et les valeurs fondamentales. Donc, vous voyez ces 7 pouvoirs. Le premier est de refuser le budget ou le plan opérationnel et stratégique. Cela sera expliqué dans le détail ensuite par un de mes collègues. Ensuite, nous avons aussi le pouvoir de refuser les changements dans les statuts standards de base d'ICANN, la possibilité d'approuver les changements dans les statuts fondamentaux. Ensuite, la possibilité, et ce n'est pas la même chose de refuser des statuts, des modifications dans les statuts fondamentaux que dans les autres statuts, parce que si on veut mettre en place une action, et il faut faire, pour certaines actions, il faut modifier ces statuts fondamentaux. Ce sont des processus qui sont différents. Il peut y avoir des refus ici, et ce n'est pas la même chose que les statuts standards. Nous avons aussi la possibilité de révoquer et le conseil de l'ICANN et ses membres dans la totalité ou dans le détail, c'est-à-dire un seul ou plusieurs individus. Hein. Nous avons aussi donc la possibilité de refuser la position ou les décisions du conseil de l'ICANN concernant la révision des fonctions IANA et de lancer un processus de révision indépendante de la communauté. Hein. Donc, tout cela en fonction de ce qui a été établi par le CWG, qui est le groupe qui travaille sur la transition des fonctions d'ANA pour le nom de domaine auprès de la communauté. Cela a aussi été cela peut être aussi mis en place par le processus de révision indépendant de la communauté et pour donc rappeler le conseil dans son ensemble. Nous avons toute une série de manières de progresser et dans le type de réaction que peut avoir donc la communauté et comme vous le voyez et en fonction de, en cas de problème. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue. Merci beaucoup Léon. Merci beaucoup pour cette présentation. Thomas reprend la parole. Je vais maintenant donner la parole à John Carter qui est le rapporteur de notre sous-groupe et je vais essayer de prendre la suite de ce qui vient d'être dit. Donc, est-ce que nous pouvons passer à la diapositive suivante? Nous allons passer donc à l'habilitation de la communauté à travers par le biais du consensus. Avant de passer à cette diapo, je pense qu'il est important de vous donner un petit peu plus d'idée, vous expliquer pourquoi nous avons fait cela. Il y avait des problèmes de compréhension au sein de la communauté lorsqu'on parlait de la possibilité d'habiliter la communauté, de donner certains pouvoirs à la communauté. Cela a été mal compris par beaucoup et comme la communauté de l'ICANN est fait partie du processus de prise de décision lorsque le conseil de la CAN prend une décision. Hein, et on a pensé cela, mais ce n'est pas vrai. ICANN, y compris son conseil, ont encouragé à ce que les choses fonctionnent comme ça. Il y a seulement un nombre limité de pouvoirs de la communauté mentionné par Léon, comme il l'a expliqué dans ma dernière diapo, dans lesquels la communauté a son mot à dire. Comme vous vous en souvenez peut-être, le but de ce travail est de s'assurer que dans un environnement de transition, nous allons placer le gouvernement américain et hors de ses fonctionnalités. Et le pouvoir est actuellement entre les mains du gouvernement américain. Nous voulons le donner à une communauté habilitée. Hein. Donc, premier message ici, il y a seulement un nombre limité de pouvoirs pour lesquels la communauté peut vraiment agir. Et deuxième point important, ce n'est pas dans les cas où la communauté a son mot à dire, le budget, la révocation du conseil, les changements dans les statuts, la communauté devra ou pourra prendre une décision et aura un système de progression de prise de décision. Nous espérons que la communauté pourra vraiment utiliser ces mécanismes et n'aura pas besoin d'utiliser ces mécanismes pour forcer le conseil de l'ICANN à suivre son opinion. Tout ce processus nous permet d'avoir un système qui permet d'application obligatoire. Certains points, certaines personnes dans la communauté ont mal compris nos recommandations, ont pensé que nous étions en train d'utiliser le marteau pour frapper sur le conseil lorsqu'il y avait des décisions concernant le budget ou autres qui dépendaient de la communauté ou pour lesquelles la communauté pouvait agir. Ce n'est pas le cas. Nous espérons qu'un processus de participation entre le conseil et la communauté pourra être utilisé de façon à éviter les frictions entre le conseil et la communauté. Cependant, nous discutons avant tout. Nous espérons que ce ne sera pas le cas, mais nous devons analyser les cas de progression lorsque l'opinion de la communauté n'est pas respectée. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il s'agit d'élaborer le budget ou de suggérer des changements dans les statuts, il y a une consultation, un processus de participation entre le conseil et la communauté qui est obligatoire maintenant. Et ces processus de consultation ont été tenu déjà par le conseil. Il y a une pratique dans ce sens. À une époque, c'était volontaire. Ce que nous voulons maintenant, ce que nous suggérons, c'est que ces processus soient obligatoires et que seulement dans les cas où les choses ne fonctionnent pas du tout, le conseil prend une décision avec laquelle la communauté n'est pas d'accord. À ce moment-là, on va mettre en place ce que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire ce processus de progression pour imposer une opinion de la communauté. C'est un peu compliqué, cette diapo, ce diagramme est un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer en langage clair pour vous expliquer ce qui se passe ici. Le conseil prend une décision, la communauté ou une partie de la communauté ou certains individus ne sont pas d'accord. Ce qu'ils vont faire, ils vont, s'ils ne sont pas d'accord avec cette décision du conseil, ils vont essayer de trouver des assos ou des assez ou des assos qui partagent leur opinion contre la décision du conseil. Si on trouve des assos ou des assez ou une asso ou un assez qui sont d'accord avec votre objection, à ce moment-là, un appel en conférence sera organisé et cela vise à garder un poids administratif relativement léger, de façon à consulter à distance et rapidement et économiquement et voir si une objection peut être corrigée ou si le reste de la communauté est d'accord. S'il y a un nombre suffisant de personnes qui sont contre cette décision et qui le déclarent au cours de cet appel, de cette conférence, de cette téléconférence, à ce moment-là, on va passer au forum de la communauté. La communauté va se réunir dans une réunion face à face, ce forum, et on va échanger toutes les visions, les pour et les contre, essayer de comprendre si l'objection de la communauté est suffisamment soutenue au sein de la communauté ou pas. Donc cela a un objectif de transparence. Il faut exprimer les conflits, permettre à tout le monde de faire entendre sa voix et à ce moment-là, d'exprimer ses préoccupations, son soutien ou pas pour la décision du conseil. Et c'est seulement lorsque les conflits ne sont pas résolus à ce moment-là que les SO et les AC vont pouvoir, selon leur propre processus, discuter au sein de leurs propres organisations s'ils veulent accéder, s'ils veulent exercer les pouvoirs de la communauté ou pas. Donc nous ne changeons pas la façon dont les SO et les AC fonctionnent. Ce que nous faisons, c'est que nous établissons nous essayons de donner suffisamment de soutien au pouvoir de la communauté pour qu'il puisse être invoqué et pour qu'il y ait un niveau acceptable d'objection en cas de désaccord. S'il y a suffisamment de soutien et en l'absence d'objection, de plus d'une objection, la décision de la communauté sera prise et sera donc adoptée. Vous constatez que je n'utilise pas le mot « voter » parce que l'on ne vote pas. C'est une des critiques qu'on a fait à notre rapport préalable. Donc nous avons modifié cette prise de décision et nous regardons s'il y a un consensus au sein de la communauté. Nous qualifions ce consensus par la présence d'un certain niveau de soutien au sein des SO et des AC et l'absence de plus d'une objection pour que le pouvoir de la communauté soit adopté. À ce moment-là, cela sera communiqué au Conseil. Si le Conseil veut modifier, prendre des décisions, rectifier ce que la communauté propose, la décision et par rapport à la décision qu'il avait faite, à ce moment-là, de nouveau, on n'aura pas besoin d'un processus de progression tel que celui que nous venons de vous présenter. La décision de la communauté sera prise, il y aura une phase d'application au cours de laquelle ou bien le conseil sera rappelé ou bien un processus de révision indépendant sera lancé. Passons à la prochaine diapo. Cette prochaine diapo vous montre le niveau de soutien requis pour exercer les pouvoirs de la communauté et le niveau maximum d'objection qui peut exister. Bien, merci. Donc, sur ce tableau, vous voyez les 7 pouvoirs de la communauté. Vous pouvez me demander pourquoi on en a 7. On avait parlé seulement de 5 pendant notre présentation préalable. L'idée est de bien faire comprendre que la communauté et l'IRP est un pouvoir de la communauté. Le pouvoir de rejeter les décisions de l'ICANN, du conseil de l'ICANN concernant la révision des fonctions IANA. Donc ce que vous voyez ici sur cette diapo est le niveau de soutien qui est nécessaire. Et vous pouvez joindre cela à la partie de progression dont je vous ai parlé. Lorsqu'il s'agit de rejeter des changements au statut régulier de l'ICANN, c'est le pouvoir de la communauté numéro 3, vous aurez besoin de 2 AC ou SO pour soutenir ce blocage afin de commencer donc cet appel à conférence ou et on aura besoin par conséquent de 2 SO ou de 2 AC pour réunir un forum de la communauté. Et une fois que ce forum de la communauté aura été tenu et que les SO et les AC auront exprimé leur propre opinion par rapport à ces processus, on aura besoin de 3 SO ou AC pour soutenir les objections concernant les changements des statuts réguliers. Donc, s'il y a seulement une ou deux organisations qui soutiennent l'objection, et si nous avons plus d'une objection, il y a la le pouvoir de la communauté ne peut pas être exercé. Et vous voyez que ces seuils ici vont varier en fonction du pouvoir de la communauté qui est impliquée, qui est concernée ici. Je ne vais pas vous les lire dans le détail, mais je pense qu'il est important de souligner que nous avons la possibilité de rejeter dans la plupart des cas. Hein. Il y a deux particularités cependant. L'une concerne l'approbation des changements dans les statuts fondamentaux. Vous vous souvenez que nous avons une motion concernant les statuts fondamentaux pour qu'ils soient plus robustes face aux changements. Donc, alors que les statuts standards peuvent être rejetés une fois qu'une décision du Conseil a été prise. Donc, les statuts fondamentaux sont en décision, impliquent un processus de décision plus difficile dans lequel il faut avoir une majorité pour les concernant ces changements et il faut qu'il y ait l'approbation de la communauté. En ce qui concerne la révocation des membres individuels du Conseil, il y a aussi une particularité, hein. Quand on passe par cette voie de progression, il va y avoir finalement la possibilité à ce que les SO et les AC prennent une décision de révoquer ou pas ce directeur ou ce membre du conseil. Passons à la diapositive suivante.
Alors, avec notre deuxième rapport, nous avons présenté un véhicule juridique, une forme juridique d'application des pouvoirs de la communauté qui s'appelle modèle du membre unique. Cela comprend toutes les SO et tous les AC dans un seul regroupement de candidats. Alors, il y avait différents points de vue concernant la possibilité de limiter suffisamment et solidement cet exercice du pouvoir d'adhésion statutaire et donc nous avons considéré que cela pourrait aboutir à des inquiétudes d'instabilité par rapport à l'ICANN et donc par rapport à la loi californienne et concernant les droits statutaires des membres, on a senti, on a identifié le fait qu'en fait, ce modèle respectait ses droits statutaires et que les pouvoirs communautaires seraient exercés conjointement, mais ce qu'on ne savait pas était en fait si cela respecterait le processus et leur permettrait d'exercer la loi californienne conformément à ce qui est régulé. Alors, on a maintenant publié cette nouvelle idée de modèle à l'électeur unique qui serait un modèle un peu plus approprié. L'ICANN a déjà une structure d'élection, mais l'idée serait de la modifier pour regrouper les SO et les AC afin qu'ils forment un seul électeur qui exerce les pouvoirs communautaires par-dessus un certain seuil, et le seuil que j'ai expliqué auparavant. Alors, on a cette composante de la communauté qui forme un seul organisme, qui est l'électeur unique, et cet électeur unique prend la forme d'une association non incorporée sur la loi californienne. Et donc, on n'a pas des problèmes par rapport aux administrateurs, il ne faut pas de nouveaux administrateurs pour pouvoir appliquer et pouvoir consacrer dans les statuts constitutifs ce droit de la communauté. Comme vous voyez ici, on a à l'heure actuelle l'ALAC, la GNSO, la CCNSO, le GAC, qui font partie de la communauté habilitée. Cette communauté habilitée, avec la SO aussi, a le pouvoir de destituer des administrateurs individuels et de limoger l'ensemble du conseil d'administration. Donc ces composantes de la communauté de l'ICANN qui ont déjà des pouvoirs délégués du conseil d'administration, qui peuvent désigner des membres du conseil d'administration, continueront d'avoir ce pouvoir à travers le modèle de l'électeur unique. Si on le compare au modèle du membre unique, on n'aurait pas de conflit entre les pouvoirs de l'électeur unique et du conseil d'administration parce que cela délègue à cet électeur unique le pouvoir de désigner des membres du conseil d'administration de manière directe. Et les autres pouvoirs seraient indirectement exercés par cet électeur unique, puisque c'est le conseil d'administration qui agirait dans le respect de ce droit ou de ce pouvoir de la communauté directement, suivant le processus habituel de prise de décision. Alors, on passe à la diapo suivante. Et sur cette diapo, vous voyez bien le processus de destitution des membres du conseil d'administration. Et les différentes étapes qui ont été adoptées dans le deuxième rapport, qui ont généré un certain niveau de discussion, parce que, on dit ici, que le processus de destitution qui avait été conçu auparavant générait une situation où les directeurs individuels, les administrateurs individuels, devraient respecter la volonté des communautés uniques qui les avaient désignées, ou autrement ils seraient destitués. Aujourd'hui, avec ce nouveau processus, on a un processus d'intervention progressive, comme vous voyez sur l'image, qui implique que l'on informera l'administrateur des inquiétudes qui pourraient surgir par rapport à son comportement ou à cette décision dans un appel de conférence. Par la suite, on tiendra un forum communautaire où la communauté élargie participera également. Et les SO et les AC peuvent également se rejoindre à ce forum, peuvent partager leurs inquiétudes. Et alors, finalement, tout repose sur l'ASO ou le AC qui a désigné cet administrateur, mais de toute façon, toute la communauté doit être au courant pour que tout le monde puisse s'exprimer par rapport aux actions de cet administrateur. Donc voilà ce qui est de la destitution des membres individuels du conseil d'administration. Nous allons maintenant passer à la dernière partie des pouvoirs communautaires, qui sont le processus de rejet du budget de l'ICANN et des plans stratégiques opérationnels. Et Jonathan Robinson aura l'occasion de vous présenter cela. Jonathan Sachs, et parce que c'est lui qui a beaucoup travaillé là-dessus. Jonathan Sachs prend la parole, merci. Alors, on a fait une distinction entre les plans stratégiques de 5 ans et les plans stratégiques opérationnels d'un an, parce qu'il y a des différences entre les deux. Le plan quinquennal est un produit de la discussion qui a eu lieu et qui a moins d'enjeux, si vous voulez, associés au pouvoir d'opposer le veto. Le pouvoir de veto serait plus approprié pour les plans quinquennaux que pour le plan opérationnel et le budget de chaque année. Mais la distinction, en fait, entre le plan opérationnel et le budget annuel n'est pas très profonde. Et donc, le veto qui s'oppose est, en fait, un veto qui est assez similaire pour chaque cas. Donc, l'idée est que nous ayons cette piste ou ce cours d'intervention progressive qui exige que chaque budget ou chaque plan opérationnel doit suivre ce processus. Chaque SO ou chaque AC doit fournir les fondements pour leurs commentaires L'idée serait donc que ces fondements aient surgi dans la période de consultation publique préalable associée à ce budget ou à ce plan opérationnel. Donc ça veut dire que la SO ou le AC va reprendre les mêmes points qu'ils ont déjà soulevés auparavant. Si un budget annuel est rejeté à la fin de ce processus d'intervention progressive, bien sûr, ce budget ne sera pas actif. Ce qui veut dire qu'il y a un processus qui est similaire au budget des aides-soignants, comme on l'appelle, le caretaker budget. Xavier Calvez, notre CFO, est impliqué pour déterminer comment on devrait former ces budgets. Mais le budget nécessaire pour l'ICANN, pour les employés et pour la tenue des réunions, tout cela doit être intégré au budget, mais n'existe pas forcément dans les contrats. Donc toutes ces dispositions qui ne sont pas dans les contrats ne vont pas être appliquées dans le budget intérimaire. Il peut y avoir des réductions dans le budget annuel de l'ICANN dans la durée, donc cela aurait un impact pour l'organisation, pour la communauté, donc l'application de ce pouvoir poserait des problèmes potentiels, ce serait en tout cas une situation très, très grave, parce que ça pourrait générer un chaos. Le budget des fonds CNA est considéré un budget indépendant, et va suivre un processus qui lui est spécifique, qui est associé à ce type de budget, avec le pouvoir de l'ICANN de rejeter le budget INA. Donc cela aurait un impact au niveau des deux budgets. Voilà à peu près l'idée de ce que l'on veut appliquer. On a eu un nombre de discussions sur ce que cela donnerait par rapport au veto du budget. Par exemple, on a discuté de l'idée que le budget de l'année précédente pourrait continuer, ce qui n'aurait aucun sens en fait, parce qu'il y aurait des projets, par exemple, qui pourraient être complétés avant le début de l'année suivante. Donc, le budget ne serait plus applicable. Alors, l'idée d'avoir ces budgets indépendants est que l'ICANN, en tant que société, respecte la loi dans sa compétence pour qu'il n'y ait pas de problème avec les différentes prévisions par rapport aux employés, pour que tout soit respecté par rapport à la communauté dans ce nouveau budget intérimaire. Si vous avez des questions, posez-les. Merci. C'est une personne non identifiée. Je proposerai que l'on passe d'abord à la question suivante. C'est Thomas qui prend la parole. On va passer au processus de révision indépendante renforcée pour discuter de la question de la responsabilité et la transparence. Et je voudrais donc que l'on passe à ce nouveau domaine d'intérêt. On va demander à Julie si elle veut présenter. Becky, êtes-vous avec nous? Est-ce que Becky veut présenter? Becky Burr prend la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend, oui, dit Thomas Ricker. Becky Burr prend la parole. Merci. Alors, ce processus de révision indépendante renforcée est un aspect important de la responsabilité de l'ICANN pour informer la communauté. Ce qu'on souhaite est donc que le résultat partage les conclusions que l'on tire du travail de l'ICANN. Donc nous travaillons et nous soutenons ce processus pour qu'il soit aussi accessible que possible pour la communauté, pour qu'il y ait ce processus de révision indépendante qui respecte les pouvoirs de la communauté tels que prévus. Si une partie croit qu'il pourrait y avoir une inquiétude individuelle, par rapport à une action ou une inaction de l'ICANN, conformément à ce qui est prévu dans les statuts constitutifs et dans les actes constitutifs, que cette partie prenante puisse manifester cette inquiétude parce qu'elle a le statut juridique nécessaire pour pouvoir le faire. Autour du monde, on a donc différents systèmes juridiques, différentes compétences, bien évidemment. Et l'idée, à travers ce panel permanent d'arbitres ou un panel judiciaire permanent, est d'avoir des membres qui puissent appliquer toujours les mêmes règles pour toutes les décisions, pour qu'ils assurent que les décisions soient cohérentes, indépendamment de l'emplacement. Donc, pour que l'ICANN puisse toujours continuer d'avancer conformément à ses statuts juridiques et ses statuts constitutifs. Ce que l'on prévoit donc est que ce panel soit intégré par des personnes qui représentent les différentes régions, les différentes cultures, qu'il y ait une diversité géographique et culturelle parmi les membres du panel. Les membres du panel devront être confirmés par le conseil d'administration de l'ICANN au moment de leur désignation. Et ce panel serait donc intégré par 7 membres. Les décisions seront prises par un panel de 3 membres. Si le panel de 7 membres accepte cette demande, cette réclamation, et la décision de ce panel de 3 membres va être contraignante. Si le panel fait une erreur ou si le panel de 3 membres considère que le panel de 7 membres a injustement accepté une demande, la demande peut être rejetée à tout moment. Par rapport aux hiérarchies de la communauté, il faut savoir que l'ICANN serait responsable de la décision qui serait prise ou de s'opposer à cette décision et suivre la procédure. Le CWG est en ce moment en train d'élaborer ces procédures qui devront être suivies. Le personnel juridique de l'ICANN travaille sur la rédaction de ces différentes procédures. Thomas Ricker prend la parole. Merci, Becky. Becky, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Becky Beu prend la parole. Non, c'est bon, j'ai fini. Bien, merci, dit Thomas Ricker. Nous avons maintenant passer aux dépendances du CWG supervision avec l'approbation des recommandations du CWG par la communauté qui dépendait de ce que notre groupe demande à voir certains résultats spécifiques. Ces résultats spécifiques et ces livrables et dépendances vont être présentés par Cheryl Langdonor. Cheryl, allez-y. Cheryl Langdonor prend la parole. Bien. Les dépendances particulières identifiées par le groupe de travail concernant l'IANA de la pré-transition sont énumérées sur cette diapo. Donc vous voyez ici les différents domaines d'intérêt pour ce qui est de la responsabilité. Et nous avons commencé à travailler sur l'élaboration d'une liste de différentes dépendances, donc par exemple l'élaboration du budget de l'ICANN. Nous avons les droits communautaires d'une part concernant l'élaboration et la considération du budget de l'ICANN, aussi pour le conseil d'administration les droits communautaires concernant la capacité de désigner ou de destituer des administrateurs du conseil d'administration de l'ICAD ou de limoger l'ensemble du conseil d'administration comme pouvoir communautaire. En même temps, ce qui est plus spécifique et plus important est aussi la possibilité d'avoir un impact sur les statuts constitutifs. Ça veut dire que l'on veut ajouter les statuts constitutifs suivants au statut de l'ICAN, qui sont la révision de la Fonseca, le comité permanent des clients et le processus de séparation. Les statuts constitutifs devraient être divisés en statuts fondamentaux et statuts réguliers. Les statuts fondamentaux seront donc des articles des statuts constitutifs qui auront un statut plus important et qui ne pourraient pas être modifiés comme les statuts réguliers. On a un nombre d'exigences pour déterminer ce qui serait un statut fondamental, des exigences pour leur modification. On verra tout ça par la suite. Et puis, on a également la possibilité de créer des panels de révision indépendants qui devraient être applicables à toutes les Fonseca et accessibles à tous les gérants au plus haut, à tous les gérants de domaines de haut niveau. Il devrait y avoir des paragraphes particuliers concernant chaque recommandation particulière associée avec ces différents sujets. On a différentes exigences de gestion du CWG qui seront ajoutées aux recommandations avec les explications associées à chacune. Donc pour les recommandations, mais également pour expliquer ce qui constitue des exigences particulières du CWG. En même temps, on sait qu'il y aurait des critères à respecter pour ce qui est de la transition de du rôle de supervision des Fonseca et que ces exigences spécifiques de ce processus auraient différentes exigences associées. Alors, on va faire des exercices de simulation de crise pour pouvoir garantir que tout fonctionnera tel que prévu. Et le CWG Supervision travaille en ce moment sur ces exercices pour vérifier que tout soit correct. Merci. Merci Charles et Thomas. Nous allons maintenant discuter de la mission de l'ICAN, de ses engagements et ses valeurs principales. Vous vous souviendrez sans doute que Léon Sanchez avait expliqué lors du séminaire web les principes de cette mission de l'ICAN, des engagements et des valeurs principales. Donc ici, vous voyez la constitution, la formation de la mission de l'ICAN. Cela est très important parce que c'est la partie dont s'occupera le groupe pour vérifier que le conseil d'administration agisse dans le cadre constitutionnel de l'ICAN. On a avec nous la rapporteure officielle qui va maintenant prendre la parole. C'est Brenda Burr qui prend la parole. Merci. Alors, on reconnaît depuis le début de nos travaux l'importance de ce document qui contient la déclaration de la mission de l'ICAN. La déclaration de sa mission est déjà formulée, on a des valeurs fondamentales bien sûr, mais ces différentes parties que l'on voit ici ne vont pas modifier la mission de l'ICAN, mais plutôt vont préciser cette mission et la mettre à jour. L'idée de ces travaux est d'assurer que l'ICAN agisse dans le respect de cette mission et de manière appropriée pour pouvoir compléter, achever cette mission. L'ICANN a différents pouvoirs qui doivent être respectés, donc parmi lesquels les pouvoirs prévus dans ses statuts constitutifs et pas d'autres. Bien sûr, l'ICANN a par exemple le droit de conclure des contrats, pourvu que ces contrats respectent sa mission ou que ces contrats l'aident à compléter sa mission. L'ICANN s'occupe des serveurs racines, des numéros, des protocoles, des paramètres de protocole, des ports de protocole aussi. Donc l'ICANN devrait avoir un rôle de coordination dans le respect des aspects techniques. Et donc son rôle est plutôt un rôle de soutien. Nous avons également précisé que la mission de l'ICANN ne comprend pas la réglementation des services qui utilisent le système des noms de domaine ou qui réglementent les contenus fournis ou transmis par ce service. La mission de l'ICANN est respectée en termes généraux, mais maintenant on a articulé en différents engagements, en valeurs clés ou principales. Donc tout cela fait partie des statuts constitutifs à présent. Cela est un travail très important parce que ça nous permet d'assurer que l'ICANN respecte sa mission et ça nous permet également d'avoir un processus de révision indépendante qui vérifie que les décisions et les actions de l'ICANN et suivent cette mission et donc les membres du panel de révision indépendante vont juger les actions et les inactions de l'ICANN. Merci. C'était Becky Burr au micro. Merci Becky, dit Thomas Ricker. Nous allons maintenant presque pouvoir parler de droits de l'homme dans les statuts constitutifs de l'ICANN pour la première fois. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment nous allons faire cela? C'est Jonathan qui prend la parole, merci. Thomas, c'est Léon qui prend la parole. Léon Sanchez. Cette question des droits humains dans les statuts constitutifs a été discutée au sein du groupe de travail, de cette équipe de travail qui a été formée. Et nous avons décidé qu'il était nécessaire de parler des droits humains dans les statuts constitutifs de l'ICANN. Notre groupe a beaucoup travaillé pour le faire et le résultat de ces travaux sont que ces droits seront établis dans les statuts constitutifs de l'ICANN, ce qui représente un engagement envers les droits humains. On a un texte qui est proposé, que vous voyez en bas de cette diapo, qui dit « Dans le cadre de sa mission et de ses opérations, l'ICANN respectera les droits humains reconnus au niveau international. Cet engagement ne crée point d'obligation pour l'ICANN ou pour aucune entité qui ait des rapports avec l'ICANN de protéger ou de faire appliquer les droits humains au-delà de ce qui pourrait être exigé par la loi applicable. » En particulier, cela ne crée aucune obligation supplémentaire pour l'ICANN de répondre, de considérer des plaintes, des demandes ou des réclamations qui demandent que l'on applique les droits humains. Cela ne correspond pas à la mission de l'ICANN, mais c'est parti d'un engagement sérieux qui est l'engagement de respecter les droits de l'homme. dans la proposition. On propose également d'élaborer un cadre d'application de ces droits de l'homme qui devrait être défendu dans les statuts constitutifs et donc vont devoir être élaborés dans le cadre de nos travaux. Maintenant, je vais donner la parole à la personne qui va parler de responsabilité dans les SO et les AC.
Merci Léon. Nous allons passer à la diapo numéro 15, pardon, numéro 16 qui concerne la recommandation 10, la recommandation 10 qui est donc des modifications des statuts de l'ICANN pour les SO et les AC qui organisent les communautés de l'ICANN. Et cette recommandation a trois étapes qui sont suggérées, qui ont été suggérées par les NTEI, et on reconnaît que les SO et les AC sont très importantes pour cette proposition, et donc les SO et les AC, il est essentiel qu'elles soient et qu'elles représentent leur communauté. Pour le test de stress que j'ai identifié, il y a la possibilité qu'une SO ou une AC soit capturée, soit saisie par un petit groupe de membres, et il faut s'assurer que les SO et les AC soient vraiment, représentent vraiment la communauté, la partie de la communauté qu'ils doivent représenter, de façon à ce que des nouveaux membres de la communauté puissent aussi entrer dans les SO et les AC, et qu'ils puissent comprendre facilement leur rôle, qu'ils puissent participer au processus, qu'ils puissent devenir des membres de ces SO et de ces AC, de façon à ce qu'ils puissent aussi présenter des recommandations et de façon à renforcer donc les parties qui sont importantes et reconnues. Hein. Il faut évaluer l'inclusivité et la capacité de représentation de ces SO et de ces AC. Merci. Merci beaucoup, Steve. Est-ce que vous pouvez aussi parler du test de stress numéro 18? Oui, merci. La prochaine diapo, numéro 17, apporte sur la recommandation 11. Et c'est quelque chose dont vous avez probablement entendu parler à propos du test de stress numéro 18 et la partie importante qui a identifié un scénario tout à fait possible, hein, dans lequel le GAC allait changer des procédures opérationnelles et de façon à ne plus utiliser le système de consensus qu'il utilise aujourd'hui. Dans ce cas-là, le conseil de l'ICANN devra aussi donner le plus haut niveau de différence au GAC. Et le risque, c'est qu'il y ait une position ici dans laquelle on doit négocier avec le GAC si on accepte de ne pas respecter la recommandation du GAC, et à ce moment-là le gouvernement lui-même sera divisé par rapport à cette recommandation et son application. Ce serait une situation intenable pour le Conseil de l'ICANN. Donc il faut éclaircir l'obligation du Conseil de l'ICANN concernant la recommandation du GAC de la façon dont cela est indiqué dans ce texte que vous voyez en face de vous. Ce sera la nouvelle partie donc des statuts de l'ICANN est modifiée, et comme nous l'avons dit, on a la possibilité de voir ce scénario dans cet exercice de simulation numéro 18. La semaine dernière, nous sommes parvenus à une solution de consensus, une solution consensuelle. Et je peux résumer cela. L'idée ici, c'est que si la recommandation du GAC est approuvée par les membres du GAC, à ce moment-là, il faudra qu'il y ait une objection formelle contre cette recommandation, ce type de recommandation. Le Conseil de l'ICANN pourra rejeter cette recommandation. Il faudra que les membres soient d'accord dans les deux tiers des membres soient d'accord, et à ce moment-là, il faudra trouver une solution acceptable. Donc, cette particularité, cette modification des statuts qui concernent l'axe de travail numéro 1, sur lequel nous avons travaillé dans l'axe de travail numéro 1, qui va donc travailler sur toutes les recommandations des comités exécutifs, pas seulement celles du GAC. Donc c'est un changement que nous allons faire aussi à travers cet exercice de simulation numéro 18. Merci. Merci beaucoup aussi. Thomas Ricard reprend la parole. Merci beaucoup et pour tout le travail que vous avez fait et sur ces exercices de simulation. Cet exercice de simulation numéro 18 est très important. Vous avez développé, vous avez réalisé un travail important et sur l'analyse, donc l'analyse de cet exercice de simulation, et cela est très utile. Nous allons maintenant passer à la diapo suivante et nous allons analyser le calendrier, les prochaines étapes. Vous voyez que nous avons une période de commentaires publics de 21 jours et la période n'est pas une période de commentaires publics comme nous les connaissons habituellement. Nous avons présenté une mise à jour formelle et que nous avons publiée le 15 novembre. Et il s'agit d'un document qui explique les 98% de ce qui figure dans la proposition préliminaire concernant le cadre de responsabilité de façon à donner à la communauté davantage de données concernant nos recommandations. Hein. Et ensuite, nous avons 21 jours sur lesquels nous avons travaillé sur les différents aspects de notre rapport. Et finalement, nous allons analyser les changements que nous avons faits. Nous espérons que vous serez d'accord avec cette période de commentaires publics de seulement 21 jours et qui est destinée à ce que la communauté puisse donner son opinion sur notre travail. Ce qui est important ici, c'est que selon notre charte, hein, et qui représente le concept de base de notre CCWG, nous avons besoin d'approbation des organisations membres pour pouvoir présenter notre recommandation au Conseil. Donc, cela devrait avoir lieu le 22 janvier 2016. En attendant, nous voulons entendre l'opinion des organisations membres, savoir si elles ont des préoccupations concernant notre recommandation. Si c'est le cas, nous avons besoin de présenter un rapport supplémentaire et dans ce cas, nous devons créer élaborer un rapport modifié et travailler sur ce rapport avec les organisations membres. Donc nous allons organiser cette période de commentaires publics d'abord de façon à nous focaliser d'abord sur les commentaires des organisations membres et pour leur approbation de ce document, nous allons tenir compte de toutes les ESSO et les AC et de leur opinion, de ce qu'ils ont à dire concernant nos recommandations. Si nous constatons que la communauté n'est pas satisfaite par notre recommandation, nous allons voir avec les ESSO et les AC et nous reprendrons certaines recommandations. Pour le moment, nous avons donc organiser donc l'analyse des commentaires à la fin de cette année de façon à pouvoir voir si notre recommandation peut être approuvée et ensuite présentée au Conseil. Je voudrais ici profiter de cette occasion pour vous rappeler que ceux qui appartiennent à une SO ou une AC et qui discutent au sein de leur groupe, je vous conseille de discuter au sein de votre groupe et nous voudrions que ces groupes reçoivent un petit peu ces commentaires que nous avons faits de façon à recevoir à notre tour des commentaires de la part des SO, des AC et des individus qui sont au sein de ces SO et de ces AC hein, pour faciliter l'analyse hein, et des commentaires dans les deux sens. Prochaine diapo, c'est la dernière. Nous avons donc rafraîchi votre mémoire sur les notions de l'axe de travail 1 et 2 du CCWG Responsabilité, ce rapport que nous avons présenté aujourd'hui, hein, et on comprend l'axe de travail numéro 1 et les aspects qui doivent être commentés avant la mise en œuvre. Ensuite, il y a des points importants sur lesquels nous devons travailler pour améliorer le cadre de responsabilité de l'ICANN et ceux qui... Et ensuite, vous trouvez la partie, ces aspects sont individualisés sur cette diapo 19. Le travail sur la diversité, la responsabilité des SO et des AC, le fait de travailler sur la transparence des différents processus, les travaux concernant les problèmes de droits de l'homme, la question des juridictions. Et à ce propos, vous devez savoir qu'il y a un problème est multifacétique, hein, donc nous n'allons pas reparler de la possibilité de relocaliser ou de réinstaller ICANN à Genève, hein, par exemple. Mais ici, ce que nous allons faire, c'est analyser les différents aspects et le contrat et ce type de choses. Et puis, nous avons aussi un statut intérimaire et qui va analyser les recommandations de l'axe de travail numéro 2. Bien, donc notre travail ne sera pas fini une fois que nous aurons soumis notre rapport. Nous aurons un travail de mise en œuvre qui va être fait. Il va falloir faire un suivi des travaux de mise en œuvre. Nous allons devoir travailler sur les recommandations de l'axe de travail 2 pour donc compléter notre travail concernant la responsabilité. Je voudrais conclure en vous disant que lorsqu'il s'agit d'adopter des recommandations, hein, nous voulons que les organisations membres utilisent ou bien des résolutions ou bien des lettres de recommandations formelles pour nous indiquer ce qu'ils considèrent important et ce qu'ils veulent nous dire, les recommandations qu'ils veulent nous faire. Donc, ces commentaires sont importants de la part de la communauté, de la part des organisations membres, pour savoir s'ils peuvent soutenir notre série de recommandations et avec quel point ils ne sont pas d'accord. Je vais maintenant donner la parole au public. Il y a eu une question de Jonathan Robinson qui a été répondue par Jonathan Souk sur les pouvoirs liés au budget. La prochaine question est de Phil Shepard. Je vais la lire. Pourquoi est-ce que la référence reconnue internationalement d'une référence plus spécifique telle que l'UDHR? Je pense que c'est une question à laquelle on a déjà répondu. On va passer à la question suivante de Susan Payne concernant donc l'exercice de simulation 18. La recommandation comprend une déclaration que le GAC, selon laquelle le GAC a l'autonomie de redéfinir ses procédures opérationnelles pour spécifier la façon dont les objections sont présentées et considérées. Cela n'est pas un changement des statuts, donc où est-ce que cela figure? Même si cela est traité dans le texte et cela a été limité au changement procédure opérationnelle lorsque un gouvernement abuse de sa position et qu'il n'y a pas de limite à cette situation. Quelles sont les protections qui existent, hein, dans le cas où le GAC ne pourrait pas vraiment modifier sa définition d'objection formelle? Je vais maintenant donner la parole à Steve, hein, qui s'est occupé d'analyser cet aspect de l'exercice de simulation 18. Steve, vous avez la parole. Merci pour la question. Steve Del Bianco prend la parole. On pourrait faire une note concernant les statuts qui expliquerait que le GAC lui-même, comme vous l'avez indiqué, pourrait présenter des restrictions sur la façon dont un pays peut exercer son objection formelle pendant une période de temps déterminée sans soutien. Et Suzanne, les SO et les SC, ce sont des rôles qu'ils ont au sein des SO, des AC et qui sont reconnus dans les statuts. Je ne pense pas de toute façon que cela change la situation, hein. c'est une reconnaissance du fait que le GAC lui-même a du travail à réaliser. Cela montre, pour montrer comment il veut enregistrer les gouvernements individuels qui ont une objection formelle. Hein. Et une fois qu'on a reconnu cela, j'espère que vous comprendrez que dans les statuts, les instructions, ce ne sont pas des instructions au conseil, hein. Ce ne sont pas des ordres que le GAC donne au conseil. Donc nous disons au conseil, dans cet exercice de simulation, que son obligation de parvenir aux deux tiers pour rejeter une recommandation est une solution en cas de décision adoptée par l'accord général. Donc le conseil lui-même aura la possibilité de comprendre qu'une objection a été enregistrée et de comprendre que le GAC lui-même peut avoir des restrictions sur la façon dont il parvient à cette situation. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a donc des restrictions au niveau du conseil et au niveau du GAC aussi quant aux procédures opérationnelles. Merci. Steve. Donc, dites-moi si on n'a pas répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je ne vois aucune question sur le chat, parmi les notes. Nous allons attendre quelques secondes de plus pour voir s'il y a d'autres questions. Je voudrais préciser que si vous avez des questions, il ne faut pas se limiter uniquement aux questions que nous avons présentées aujourd'hui. Vous pouvez aussi poser des questions concernant d'autres sujets, concernant les différences entre d'autres exigences techniques, par exemple. Thomas, je voudrais prendre la parole. C'est Carous ici. Je ne suis pas sur Adobe Connect, c'est pour ça que je ne lève pas la main. Hein. J'ai suivi très attentivement tout ce qui a été présenté et je comprends maintenant que ce conseil, en fait, sera complet et que les gouvernements ne pourront faire que des objections formelles et on ne pourrait pas continuer de travailler au sein du GAC comme on le fait aujourd'hui de manière consensuelle. Donc les gouvernements particuliers vont pouvoir exercer une certaine pression pour que l'on fasse ce que ce gouvernement veut. Dans l'intérêt du public, donc je ne crois pas que ce soit très approprié. Il me semble que ce serait très difficile de pouvoir travailler comme vous présentez ici. Il faudrait essayer de trouver une manière d'empêcher qu'il y ait une objection individuelle qui empêche le travail du groupe. Donc je tenais à dire qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec cette possibilité d'opposer un veto sans qu'il y ait un processus d'élaboration ou de développement de consensus d'abord. Cela serait très nuisible au travail de notre groupe. Merci Cavous, dit Thomas Ricker. Cavous est un membre actif du groupe de travail. Et je prends ce qu'il manifeste, ce qu'il exprime comme une inquiétude et comme un commentaire, pas comme une question. Le CCWG a beaucoup travaillé avec les gouvernements qui sont représentés au sein du CCWG. Et ensemble, ils ont essayé d'atteindre un équilibre de représentation des gouvernements dans la transition. Comme Steve l'a dit, on ne vient que de faire des progrès par rapport à la rédaction qui était acceptable pour les gouvernements sur la base du consensus au sein de notre groupe. Ça ne fait que quelques jours qu'on a pu faire cela. Donc, Il me semble que le texte que l'on a à l'heure actuelle montre le compromis sur lequel on a travaillé depuis tellement longtemps. Je sais qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais au moins, le texte que l'on a à l'heure actuelle est acceptable. On dit que le rôle du CCWG n'est pas d'imposer ses décisions au GAC ou de déterminer, d'indiquer comment devrait agir le GAC. On respecte ce que le GAC veut. Donc on sait très bien, on est très conscient de cette nécessité de s'engager avec les gouvernements pour pouvoir transmettre leurs inquiétudes. Donc j'espère que vous aurez pu apprécier tout cela dans ce qui a été présenté. Y a-t-il d'autres questions? J'apprécierais énormément si on pouvait recevoir des questions des personnes qui ne participent pas dans le canal anglais, surtout. Si vous avez une question, vous pouvez la publier sur le chat dans votre propre langue et nous allons demander à ce qu'elle soit traduite. Qu'à vous se prendre la parole, est-ce que vous me permettrez de poser une autre question? Oui, allez-y, dit Thomas. Qu'à vous se rester, prendre la parole. Vous avez parlé de ce rapport individuellement et sur la recommandation qui était faite dans le rapport. Est-ce que vous aurez reçu d'autres demandes qui ne soient pas incluses dans ce que vous avez présenté? Comment abordez-vous cette question? Y aurait-il d'autres accords informels? Par exemple, moi, en tant que membre du GAC, je n'ai reçu aucune information qui permette de penser que l'on puisse travailler autrement qu'en fonction du consensus. Donc oui, il est possible qu'une organisation de soutien agisse sans avoir le soutien des lois. C'est un juridique. Donc que fait-on? Merci. Thomas Ricker prend la parole. Merci Kabou, c'était une question intéressante. Au centre de l'ICANN, avec la participation des ESSO et des ACI dans le respect de la loi et avec les différentes demandes de facilitation, bien sûr, personne ne garantit que les organisations de soutien puissent faire respecter ces demandes. Mais on sait que tout le monde travaille pour essayer de respecter les livrables attendus. Mais si 5 sur 6 organisations ont déjà manifesté soutenir nos recommandations, et que la sixième organisation n'est pas en mesure de s'exprimer à ce sujet dans les délais prévus, on pourrait continuer d'avancer parce qu'on a déjà l'accord ou le consentement de 5 sur 6 organisations. Merci, c'est Léon Sanchez qui prend la parole. Il me semble que la question, en fait, ne serait pas, comme vous dites, dans le cadre des statuts actuels, mais comme j'expliquais au moment de présenter les engagements de l'ICANN, en matière de droits de l'homme surtout, si l'on inclut une déclaration qui dise que l'ICANN agira dans la mesure du possible, dans le respect des droits de l'homme, et qu'elle va consulter certaines ressources ou certains textes de référence, on pourrait aller au-delà de la mission de l'ICANN. J'essaie de répondre à Harold. J'essaie de reprendre ce qui a été accordé au sein du groupe pour répondre à la question de Harold. Donc ça veut dire que le consensus sera respecté dans la mesure du possible. Thomas prend la parole, merci. Léon, on a une autre question de Pedro. Et après cela, il va falloir que l'on conclue notre appel. On est à la fin de l'heure du temps prévu. Donc la question de Pedro est, où est-ce que le seuil de 5 sur 6 organisations membres est inclus? Où voyez-vous ce seuil? Est-ce inclus dans la charte du CCWC? Je ne le trouve pas dans cette charte. Pedro, oui, c'est dans la charte. Effectivement. Et c'est tout ce qui est inclus dans la liste de diffusion du CCWC responsabilité. Il nous reste 2 minutes et je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier d'avoir participé. On ne s'attendait pas à avoir autant de participants. Nous sommes particulièrement contents de voir qu'il y a des personnes qui participent qui ne sont pas en réalité les participants habituels qui s'intéressent à ce processus qui est si important pour l'ICANN. On leur en remercie. Et c'est un travail qui est également important pour la communauté. Donc, on vous remercie d'avoir participé. On remercie également les interprètes qui nous aident à soutenir cette initiative multilingue. On remercie également le personnel de l'ICANN. Et ce document que vous avez sur l'écran, vous pouvez le télécharger également. Et c'est un document qui a été élaboré avec beaucoup d'efforts de notre groupe. Donc je remercie particulièrement le personnel et tous ceux qui ont participé au processus pour nous permettre de pouvoir élaborer ce document que vous avez sur l'écran. Je remercie également le conseil d'administration qui a eu un rôle très actif dans ces processus de discussion et qui nous ont beaucoup aidés à trouver de nouvelles recommandations d'articles que l'on pourrait ajouter à la mission de l'ICANN dans les statuts constitutifs. Je remercie également les efforts des membres du GAC, non seulement concernant les exercices d'analyse de risque, mais dans l'ensemble de notre travail. Il y a des personnes qui travaillent ensemble depuis toujours, mais au sein du CCWG, le groupe qui s'est formé est un groupe très divers en termes géographiques et en termes d'intérêts et de communautés. Donc les recommandations que vous voyez au bout d'un an font partie d'un processus inédit, un processus de collaboration multipartite, de travail collaboratif des différentes communautés. Donc je remercie les membres du CCWG qui ont fait un si bon travail pour nous permettre d'arriver au point où on en est aujourd'hui. Donc je conclurai ce séminaire web en remerciant tous les intervenants, tous les orateurs. On aura un autre séminaire web mercredi prochain. On vous invite à nous rejoindre à ce séminaire web si vous voulez. Merci et ayez une bonne journée.